Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mes bien chers frères, en ces temps qui sont les derniers temps de l'année liturgique, eh bien nous méditons les derniers temps. La fin des temps est aujourd'hui quelque chose d'un peu difficile à imaginer, l'apparition du Christ en gloire. Alors je vous propose d'une part de voir la fin des temps et d'autre part de voir la parousie du Christ. Tout d'abord, la fin des temps. La fin des temps, d'abord, ça sera une fin, et ensuite, des tribulations. D'abord, c'est une fin. Alors, il faut s'en persuader, mais maintenant, tout le monde en est presque sûr, parce que nous le savons depuis la Genèse, que ce temps est un temps, c'est-à-dire qu'il n'est pas éternel, et que tout ce qui est dans le temps finira. Voilà, nous le savons, il y a eu une création, il y aura une Apocalypse, une fin du monde, et aujourd'hui, réjouissons-nous que la science sans cesse s'enrichisse de l'intelligence humaine et qu'elle découvre petit à petit, puisque peut-être le savez-vous, aujourd'hui, 90% des physiciens mondiaux sont d'accord pour penser que le temps aura une fin, ce qui n'était pas le cas il y a encore 40 ans. Il y a 40 ans encore, dans les congrès de physiciens, vous pouvez prendre les comptes rendus, c'est très passionnant. Il y avait toujours un petit mot à la fin pour dire que, Dieu n'existait pas parce que la matière était éternelle. Alors aujourd'hui, bizarrement, on ne dit plus rien du tout sur ça. Hein ? Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à peu près certains, je dis nous sommes, je ne suis pas physicien, mais enfin, ils sont persuadés que ce temps va se finir. Alors nous le savons depuis toujours, donc ça ne nous bouleverse pas, et cet âge ne passera pas que tout ne s'accomplisse. Cet âge, c'est-à-dire l'âge de l'humanité, cet âge qui est arrivé déjà à son apogée avec le Christ. Le Christ, c'est le sommet de l'histoire. L'histoire s'est déroulée, il y a eu la création, la chute et le relèvement progressif par la pédagogie de la loi jusqu'au sommet qu'est le Christ. Et depuis, nous vivons de ce déploiement en nous-mêmes de ce qui manque à la passion du Christ. Qu'est-ce qui manque à la passion du Christ ? Rien, sinon moi. C'est-à-dire, c'est en moi que manque la passion du Christ. Donc nous attendons cette fin avec un ardent désir. Alors il y a un moment où, même dans le temps, elle va survenir, c'est-à-dire que le temps va finir. Et nous aimerions bien en savoir les signes. Eh bien, ils nous sont donnés ici. Alors tout d'abord, il y a des faux signes. Il y a des faux signes, c'est ce que Saint Matthieu a traité avant notre petit passage, là, enfin notre long passage, hein, et ce sont les persécutions. Alors les persécutions ne sont pas le signe de la fin des temps. Il y en aura toujours, il y en a toujours, demandez aux chrétiens d'Orient, demandez aux chrétiens de tous les siècles d'ailleurs, que les persécutions ont toujours existé, de l'Empire romain en passant par le croissant fertile jusqu'à aujourd'hui l'Extrême-Orient. Et donc ce n'est pas là la fin des temps, ce n'est pas le signe de la fin des temps. Pourquoi ? Parce que ce signe, on n'a pas besoin de trop s'en inquiéter, je vais dire maintenant ce que c'est, mais il sera évident. Vous avez vu l'image que le Seigneur prend, il en prend deux d'ailleurs, ça sera comme le soleil qui part de l'Orient et va jusqu'à l'Occident, c'est-à-dire comme un rayon de soleil, à la vitesse de la lumière. On n'aura pas besoin de se creuser la tête pendant des heures, savoir est-ce que c'est vraiment la fin du monde ou pas, ça va surgir. Voilà. Et nous serons renseignés aussi sûrement que l'aigle. En fait, l'aigle, c'est une mauvaise traduction de Saint Jérôme qui sont un peu trompés, c'est les vautours, on l'a traduit en français, qui se réunissent là où sont les cadavres. C'est une image un peu bizarre, mais parce que les vautours sont réputés, dit Saint Jérôme, connaître l'odeur des cadavres à des kilomètres. Et donc, avec certitude, ils fondent dessus. Voilà, ça sera une certitude absolue quand surviendra la fin des temps. Donc, ne nous inquiétons pas, tout simplement. Et puis, je vous signale que les vendeurs de fin des temps, en général, c'est plutôt des bonimenteurs qui cherchent à vous faire peur pour vous asservir ou vous vendre quelque chose selon les modes. Hein. Je n'ai que 48 ans, mais j'ai déjà connu à peu près 7 fins des temps. Alors, je n'ai pas fait la récollection, mais vous savez qu'il y avait la fin des temps des Incas, la fin des temps de l'an 2000, la fin des temps des saints des derniers jours, la fin des temps la plus rigolote peut-être, c'est celle de Paco Rabanne, mais enfin bon, bref, autant de sornettes, si vous voulez, ne nous laissons pas bouleverser indûment. La fin des temps arrivera, et cette fin des temps, nous le savons, elle viendra en temps voulu, et quand elle viendra, on le saura. Voilà. Alors, le vrai signe de la fin des temps, c'est l'abomination de la désolation. Alors c'est très simple, parce que c'est déjà survenu. La première, c'est 2 siècles avant le Christ, c'est lorsque Antiochus Épiphane, un gouvernant particulièrement mauvais, vous voyez, c'est de tous les temps, a introduit Zeus dans le temple saint et a empêché le culte du Seigneur. Et on se plaît à penser que cette abomination est survenue de nouveau avec la destruction du temple de Jérusalem après le Christ en 70, sur lequel a été érigé un temple d'idolâtres romains. Aujourd'hui, on y adore je ne sais pas quoi, mais de nouveau, un dieu qu'on ne peut pas atteindre puisqu'on ne peut que s'y soumettre. Bref, la désolation, l'abomination de la désolation, c'est l'idolâtrie. Alors, je ne vais pas me lancer dans une recherche de l'idolâtrie parce qu'elle règne tout autour de nous. L'argent est une idole, mais j'aurais préféré que nous fussions encore au temps du désert, qu'on érigea un beau veau d'or en or, parce qu'il aurait été facile de dire « ça, c'est une idole ». Parce que les idoles d'aujourd'hui sont pernicieuses et elles s'infiltrent partout, ce sont des idéologies perverses. Oui, elles se présentent souvent sous un beau regard, vous me direz, une belle statue d'or, c'est joli aussi. Mais ces idoles, elles se présentent sous une espèce de tolérance œcuménique qui accueille tout le monde et qui, in fine, nous empêche de prier et de manifester notre foi. Oui, cette idole se présente sous la forme d'une confiscation de notre vie religieuse et même de notre liberté. Bref, l'idolâtrie se présente partout et ses grands prêtres ne manquent pas, comme dit l'Évangile, les pseudo-Christ et les pseudo-prophètes ne manqueront jamais, hélas. Ils peuvent nous faire tourner la tête, garder les yeux fixés sur Jésus-Christ, car même les élus, s'ils se pouvaient, dit saint Matthieu, pourraient être trompés. Ne vous inquiétez pas, même si les flammes de l'enfer pouvaient toucher l'Église et même son intérieur, eh bien, les paroles du Christ se réaliseraient avec la certitude aussi absolue que surviennent les tribulations, puisque les deux nous ont été prédits. Alors, voyons maintenant, dans cette tribulation terrible, qui concernera l'univers tout entier, hein, je ne veux pas vous faire peur, mais ça va quand même être un petit bouleversement. Je préfère prendre une image sympathique, bien que bouleversante, notre naissance. Hein, quand nous étions dans le ventre de notre mère, eh bien notre naissance a été un bouleversement absolu. On est passé d'un monde aquatique à un monde aérien, on est passé dans les douleurs, les larmes, les cris, à quelque chose de nouveau. Eh bien voilà ce à quoi va ressembler l'enfantement de ce monde. La terre, les étoiles, tout sera bouleversé, comme si le monde entier, le cosmos, allait renaître, allait sortir du ventre de la terre pour naître enfin à Dieu. Ce sera un bouleversement, mais mes bien chers frères, un bouleversement merveilleux, puisque c'est la parousie du Christ, c'est-à-dire la manifestation de sa gloire. Oui, la première venue du Christ a été dans l'humilité, il s'est caché dans un enfant, dans un homme, pour se cacher maintenant au milieu de nous dans l'Eucharistie, ce voile de la foi qui nous empêche de voir la gloire de Dieu, afin tout simplement que nous puissions avancer, manifester notre liberté et le choisir. Et oui, quand paraîtra le Christ dans sa gloire, il ne sera plus temps de choisir. C'est maintenant le temps du choix. Ne croyez pas ceux qui vous disent « Ah, quand le Christ paraîtra dans sa gloire, alors on pourra se convertir et croire à lui. » C'est faux. Ça sera fini. Il n'y aura plus de temps. C'est l'éternité, justement. C'est exactement le même argument que ceux qui crucifièrent le Christ ont eu en disant « Si maintenant tu descends de la croix, alors on croira à toi. » Eh bien, ce sont des balivernes parce qu'ils n'auront pas le temps de se convertir. Il faut maintenant prier pour la conversion des pécheurs, il faut maintenant nous se tourner vers le Christ qui vient et qui va régner, qui va assumer toute chose. « Regnum Christi, Pax Christi, in Regnum Christi. » Oui, ce Christ dans la gloire qu'ont entrevu Pierre, Jacques et Jean lors de la transfiguration, nous allons le voir, le contempler et même nous pourrons le regarder face à face car il va brûler en nous toute imperfection et nous allons régner avec lui. Alors, que nous reste-t-il à faire ? Eh bien, cette manifestation de la gloire, il nous reste à en participer, tout simplement. À en participer déjà, et c'est pour ça que vous êtes venus à cette liturgie, à cette sainte messe, pour pouvoir, sous la forme du voile de la foi, participer déjà du Christ rayonnant et vivant que vous allez recevoir dans un instant. Ne vous y trompez pas. Le déploiement de notre liturgie doit toujours manifester quelque chose de la gloire de Dieu. Ne vous laissez pas de nouveau par les bonimenteurs qui vous font accroire que la pauvreté, la simplicité font que, bref, il ne faudrait pas célébrer la messe. Eh bien non, la chasuble du prêtre représente toujours quelque chose de la gloire de Dieu. La mienne aujourd'hui porte un vert vif avec des fleurs qui vont éclore, car nous le savons. Les arts de la résurrection, les arts de la manifestation de la gloire, nous le touchons déjà dans cette liturgie, le ciel sur la terre, qui nous est donné de vivre en promesse de l'héritage éternel. Enfin, cet héritage et cette gloire du Christ, vous allez l'emporter chez vous, rayonnant de la gloire de Dieu à l'intérieur de votre âme, ce temple de l'Esprit-Saint, vous allez la porter au monde pour que rayonne le Christ, pour que le règne du Christ s'empare de nous, c'est-à-dire d'abord de votre cœur, et qu'alors il se répande dans le monde et que vous soyez les instruments du salut de vos frères. Restez dans la joie et l'allégresse, car les ténèbres dans lesquelles nous vivons ne dureront pas. Nous vivons maintenant à la lueur d'une lampe, à la lueur d'un cierge, celui du Christ qui vient. Eh bien, nous allons voir éclater sa grâce, car il nous a tirés des ténèbres à son admirable lumière. Ainsi soit-il.